Dali, Van Gogh, Goya, Dürer, voyage en terre de couleurs. Une émission réalisée par Corinel, un programme Maurice Clément Fèvre. Après avoir vendu le domaine d'hier, le peintre s'est attaché aux scènes des rues parisiennes et de son quartier. Il va alors scruter l'effervescence qui y règne depuis ses balcons. Allons poser notre chevalet à l'une de ses fenêtres. Bienvenue chez Gustave Caillebotte.
Rappel du contexte politique.
Début 79, le climat politique instable des dernières années entraîne la démission du président de la République, le comte de Mac Mahon, dont les monarchistes rêvaient qu'il rétablisse la royauté. Opposé aux républicains qui remportèrent les législatives d'octobre 78 et les sénatoriales de janvier 79, Mac Mahon se démet de ses fonctions. Jules Grévy est alors nommé et exercera jusqu'en 87. En 1880, Caillebotte vient de participer à la 5e exposition. C'est une année assez prolifique, puisqu'il produit bon nombre de tableaux. Zola, qui l'avait ignoré en 79, écrit en 80.
Monsieur Caillebotte est un artiste très consciencieux, dont la facture est un peu sèche, mais qui a le courage des grands efforts et qui cherche avec la résolution la plus virile.
En cette année, Caillebotte exécute des toiles à la vue plongeante depuis une fenêtre ou un balcon. Cette avancée architecturale détrône ainsi les cours intérieures.
Pourquoi donc ?
Parce que depuis un balcon, on observe, on peut être vu des passants, des voisins, et surtout, on peut profiter du soleil et de la lumière. Manet et Monet l'ont utilisé dans leurs tableaux. Caillebotte s'essaye à une certaine quantité d'œuvres, de personnages appuyés à leur balcon, produisant ainsi des perspectives inédites. Le balcon est devenu un poste d'observation de la vie parisienne. Il orne la plupart des immeubles haussmanniens. En 80, il exécute un balcon boulevard Haussmann, où deux hommes côté ombre, dont un coiffé d'un chapeau haut de forme, accoudé à la balustrade, ont une vue par-dessus la cime des arbres ensoleillés, sur les immeubles d'en face éclairés. À droite, le balcon rectiligne coupe la toile en diagonale sur les deux tiers de la largeur, donnant ainsi de la profondeur au tableau. Avec homme au balcon, il reprend le thème de l'homme vu de dos à la fenêtre, comme dans « Jeune homme à la fenêtre », daté de 76. Ici, le personnage est habillé plus élégamment, d'un manteau et d'un chapeau haut de forme. Appuyé sur la rambarde, son poing repose sur sa hanche gauche. Il observe le boulevard lumineux, avant certainement de s'y rendre et de se fondre dans la foule. On note le cadrage audacieux du peintre. L'homme, dont la silhouette se reflète dans la fenêtre de droite, a les jambes coupées au niveau des mollets. Au-dessus du chapeau, le store à rayures rouges occupe toute la largeur de la toile, occultant de la sorte une partie du ciel.
Voyage en terre de couleurs, les impressionnistes.
Autre tableau du même titre, Homme au balcon. Cette fois, le balcon et son angle arrondi sur une autre rue se situent sur la gauche. Un homme de profil en redingote y est appuyé. Son regard plonge sur le boulevard radieux qui coupe aussi la toile en diagonale. Du haut des étages, le personnage surplombe l'effervescence de la rue. Cet homme est un ami de Gustave, agent de change. Il se nomme Maurice Brault. Il fallait oser un cadrage original dans un balcon à Paris. Le garde-corps du balcon, ajouré d'arabesques en fer forgé, occupe toute la largeur de la toile sur presque la moitié de la hauteur. Le regard vient buter de suite dessus, avant de chuter à travers lui, vers le bas, sur le boulevard, composant une ligne de fuite, donnant de la perspective à la composition. C'est une œuvre tout en contraste, la vision de près et de loin, le noir du fer forgé et le clair lumineux de l'artère, l'équilibre des formes et le déséquilibre. Il existe aussi une vue d'un balcon version hiver, dans boulevard Haussmann effet de neige, au musée du château de Flers, dans l'Orne, et dans une collection particulière.
Les impressionnistes, Gustave Caillebotte.
Le boulevard a été pour Caillebotte un autre sujet d'étude assez utilisé comme monnaie auparavant.
Quelle en est l'origine ?
D'origine néerlandaise, le bolwerk désigne le terre-plein du rempart. C'est ainsi que les traces des anciennes fortifications de Charles V, côté rive droite, ont servi pour le tracé des grandes artères parisiennes. Ces grands boulevards séparent les faubourgs parisiens, où est repoussé le monde ouvrier, du centre-ville qui subit une rénovation, tant au niveau embellissement que de l'assainissement. Georges Haussmann, préfet de la Seine en 1853, conduit les travaux de rénovation et de salubrité de Paris jusqu'en 69. Ces avenues, bordées d'arbres et de lampadaires, deviennent des lieux de vie sociale. Les grands hôtels, cafés, salles de spectacle s'y installent et attirent de la sorte une clientèle de plus en plus nombreuse et fidèle pour certains. Le boulevard des Italiens, non signé, est exécuté depuis l'appartement de Jules Froyer aux deux rue Lafitte. Il n'est pas sans rappeler les deux vues du boulevard des Capucines de Claude Monet, datant de 73, et vilipendé par le critique Louis Leroy. Même vue plongeante sur le boulevard bordé d'arbres et d'immeubles, à peine esquissée. Les personnages sont identiquement représentés par de petites touches verticales sombres. À ce propos, Louis-Edmond Duranty déclare qu'il faut
« rendre la marche, le mouvement, la trépidation et l'entrecroisement des passants ».
Dans les deux représentations suivantes, Caillebotte plonge presque à la verticale sur l'artère. Dans « Boulevard vu d'en haut », le balcon a disparu et le regard vient s'écraser sur la cime d'un arbre aux branches déployées, dont le pied est protégé d'une grille en fer. Les feuilles, quelques silhouettes et un cheval témoignent d'un instant de vie. Ce cadrage très particulier nécessite néanmoins un dessin à la technique maîtrisée. La toile sera présentée à l'exposition de 1882, mais ne recevra aucun commentaire. Dans un refuge boulevard Haussmann, la vue plus oblique cette fois vers le centre du carrefour du boulevard et des rues Scribe et Gluck est réalisée depuis l'appartement de Caillebotte. Au centre de la place Diaghilev est aménagé un rond-point servant de refuge pour les piétons. Ce rond, de forme plutôt elliptique, bordé de réverbères, s'inscrit dans le format rectangulaire de la toile. Quelques rares piétons, deux calèches, témoignent là aussi d'un semblant mouvement de vie parmi le vaste espace empli de solitude du carrefour. Le tout est brossé dans des nuances d'ocre jaune, beige grisé, aux contours estompés à l'exception des trois silhouettes d'hommes. Nous reconnaissons le cadrage tout personnel de Gustave Caillebotte qui élimine horizon et immeuble de sa composition. À ce propos, en 80, Edgar Degas écrit à Camille Pissarro.
Caillebotte fait de ses fenêtres des refuges du boulevard Haussmann, m'a-t-on dit.
La majorité des tableaux cités appartiennent à des collections privées. Toutes ses œuvres à la vue plongeante sur la rue, depuis un balcon, a pu inspirer le peintre norvégien Edvard Munch. En effet, en 1891, il exécutera rue Lafayette, galerie nationale d'Oslo, qui ressemble au balcon boulevard Haussmann de Gustave. N'oublions pas qu'il sera lui aussi élève de Léon Bonnat en 89.
La sixième exposition.
Cette manifestation des impressionnistes a lieu du 2 avril au 1er mai 81, au 35 boulevard des Capucines, dans une annexe de l'atelier du photographe Félix Tournachon, dit Nadar. Seulement 13 artistes y sont présents. Degas y règne en maître et a fédéré autour de lui Marie Cassatt, Gauguin, Guillaumin, Morisot, Pissarro, Roard, pour n'en citer que quelques-uns. Caillebotte n'y participe pas en raison de ses profonds désaccords avec Degas. Il le tient pour responsable des dysfonctionnements et dislocations du groupe. Dans une lettre du 24 janvier, il écrit à Camille Pissarro.
Que vont devenir nos expositions? Voici quant à moi mon avis bien arrêté. Nous devons continuer et continuer uniquement dans un sens artistique, le seul sens en définitive qui soit intéressant pour nous tous. Je demande donc qu'une exposition soit faite avec tous ceux qui ont apporté un réel intérêt dans la question, c'est-à-dire vous, Monet, Renoir, Sisley, Madame Morisot, Mlle Cassatt, Cézanne, Guillaumin, si vous voulez Gauguin, peut-être Cordet et moi. C'est tout, puisque Degas refuse une exposition ainsi faite.
Un peu plus loin, il exhorte Pissarro, embarrassé, à se dissocier d'Edgar Degas.
Je vous le demande, notre devoir n'est-il pas de nous soutenir tous et d'excuser nos faiblesses plutôt que de nous démolir? S'il n'y avait jamais eu qu'une question agitée entre nous, la question d'art, nous aurions toujours été d'accord. Celui qui a mis la question sur un autre terrain, c'est Degas, et nous serions bien sots de subir la peine de ses folies.
Renoir, Monet, Sisley et Cézanne sont absents de cette 6e exposition. Auguste Renoir envoie 2 tableaux au salon délivrés de l'autorité de l'État depuis mars.
Le salon en crise.
Cette institution inaugurée en 1667 commence à avoir des soubresauts, à s'essouffler dans les années 80. Les artistes sont admis par un jury sous la houlette de l'Académie des Beaux-Arts. Autant dire, n'y entre pas qui veut. Prisonnier d'un certain conformisme et anti-progressiste, le salon officiel va être à l'origine du rejet et de la désaffection des peintres novateurs. Napoléon III crée alors en 1863 le salon des refusés. Ces derniers aménagent aussi leurs expositions indépendantes. L'État se retire du salon grâce à Antonin Proust, ministre des Beaux-Arts. De ce fait, les membres doivent constituer en 1881 la Société des artistes français. Celle-ci éclatera en 89 pour donner la Société des artistes français et la Société nationale des Beaux-Arts. Entre-temps, 1884, voit l'apparition du Salon des indépendants sans jury.
Une dernière acquisition.
Le 7 mai 81, Gustave achète avec son frère Martial une propriété au Petit Gennevilliers de 2641 m², près du bassin d'Argenteuil. Après 88, grâce à plusieurs agrandissements, elle atteindra la surface d'un hectare environ. Jusqu'en 87, Caillebotte se partage entre son appartement parisien l'automne et l'hiver et le bord de Seine au beau jour avant de s'y installer définitivement en 88. Argenteuil, niché dans un méandre de la Seine, marqué par 2 ponts modernes, est accessible par la route et le chemin de fer depuis la gare Saint-Lazare. Les Parisiens y viennent pour se ressourcer, pour le canotage ou les régates du Cercle de la Voile de Paris, dont Gustave est devenu vice-président le 9 janvier 80. Martial en est un affilié important. Installé sur la rive opposée, dans un cingle de la Seine, la plaine de Gennevilliers est le pays de Manet depuis plus d'un siècle. Caillebotte peut ainsi assouvir son amour de la voile en concourant aux régates d'Argenteuil et s'adonner en plus à la peinture. Sisley en 72, Renoir en 73-74, Manet en 74, Monet sont déjà passés par Argenteuil y peindre leurs tableaux impressionnistes.
Un bol d'air iodé.
Désormais, Gustave voyage assez souvent sur la côte normande pour peindre Honfleur, Trouville, les régates au Havre. C'est un navigateur expérimenté, aussi bien en rivière qu'en pleine mer. De plus, il devient président du sous-comité de la Société des régates de la côte normande, de Cabourg, Dives, Benzéval, Houlgate. Dorénavant, il va quitter fréquemment son domicile parisien pour sa passion du yachting et la peinture en plein air, de paysages ou marines. C'est ainsi qu'il nous laisse une trentaine de toiles de Normandie, des paysages essentiellement. En 81, Caillebotte exécute une œuvre, Leçon de piano, au musée Marmottan Paris, qui n'est pas sans rappeler un thème cher à Renoir. Elle n'a jamais été exposée et nous dépeint 2 femmes au costume sombre, de profil, assises devant un piano. Certainement, une élève et son professeur. Cette toile fut donnée à Claude Monet et se retrouva dans le legs de son fils Michel à l'Académie des Beaux-Arts de Paris. Notre voyage en terre de couleur se termine pour aujourd'hui sur une remarquable production d'œuvres de la part de Caillebotte. Je vous invite à nous retrouver très prochainement sur cette même antenne pour la dernière exposition de l'artiste.